Tony Havard est avec nous. Tony Havard est le coordinateur du festival Conteurs en Campagne, festival de contes organisé par les foyers ruraux 59-62. Bonjour Tony Havard.
Bonjour.
On rappelle que les foyers ruraux 59-62 coordonnent des associations culturelles et sociales dans les villages de toute la région Nord-Pas-de-Calais dans une démarche d'éducation populaire. Alors combien d'associations ça fédère ?
Actuellement, on se situe aux alentours d'une centaine d'associations sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais.
Est-ce que vous sentez une dynamique particulière dans ces associations ? Est-ce que dans les villages, comme en ville, les associations sont confrontées aux difficultés de renouveler leurs dirigeants, leurs équipes ? Et puis, est-ce que vous sentez aussi des changements liés au changement du milieu rural en lui-même dans ces associations ?
Alors, je dirais qu'effectivement, comme on coupe pas aux difficultés du secteur associatif, qui est peut-être parfois des difficultés à renouveler le personnel associatif, les bénévoles, c'est surtout vrai pour les associations, j'allais dire, historiques des foyers ruraux, parce que les foyers ruraux, il y a plusieurs types d'associations. Il y a les associations qui s'appellent foyers ruraux, qui sont des associations qui souvent chapeautaient toute l'activité associative, culturelle, sportive, environnementale, de loisirs de la commune. Et ce sont des associations véritablement qui œuvrent pour impliquer les habitants dans la vie de leur commune. Et c'est vrai que parfois, sur ces associations, comme partout, on a des difficultés à renouveler. Maintenant, la Fédération des foyers ruraux a aussi accueilli des associations plus thématiques qui travaillent parfois sur un thème sportif, culturel, une bibliothèque, etc. Et je dois dire que c'est quand même un mouvement qui résiste assez bien, même si on a aussi parfois ces lois du marché qui peuvent rentrer parfois dans le secteur associatif, c'est-à-dire cette volonté parfois inconsciente de nouveaux dirigeants d'avoir ces notions de rentabilité qui rentrent en compte. Donc voilà, il faut aussi je pense lutter contre ça de notre côté.
Quant au changement lié au changement du milieu rural en lui-même, parce que comme beaucoup de régions, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui se métropolise autour de la métropole lilloise. Il y a des phénomènes comme ceux de la paupérisation de la campagne. Il peut y avoir aussi des phénomènes de ce qu'on appelle rurbanisation, donc où les gens habitent à la campagne mais finalement travaillent à la ville et donc vivent assez peu leur village.
Oui, c'est vrai que, par exemple, sur l'opération Conteurs en Campagne, on constate qu'il y a des villages qui sont vraiment divers. Donc le milieu rural, ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement, on a des villages qui sont assez près des grandes villes, où on a un public parfois uniquement résidentiel, qui n'est pas forcément facile, par exemple, à impliquer dans des activités, parce que pour les activités, il va partir en ville, pour les activités associatives ou sportives ou culturelles, y compris pour aller voir des spectacles, par exemple. Et puis, on a des villages qui sont un peu plus isolés, où il y a encore un vrai noyau, j'allais dire, d'habitants impliqués, et où là, il y a peut-être parfois plus de dynamique, mais il faut pas renoncer. Je pense que la qualité des actions qu'on peut proposer dans un village peut faire que des gens vont s'intéresser à ce qui se passe dans leur village. Mais c'est vrai que les nouveaux quartiers, notamment les nouveaux quartiers dans les villages, c'est des zones qui sont parfois un peu difficiles parce que à les rencontrer parce que déjà elles sont isolées du centre du village. Et donc là, c'est encore une autre difficulté.
Alors la démarche de votre festival Conteurs en Campagne, c'est d'amener des spectacles là où il n'y en a pas peu. Le conte, c'est quelque chose qui est bien adapté à cette situation, à cette problématique, parce que ça demande relativement peu d'infrastructures, d'installations, de préparation de spectacles. Et en même temps, le conte est quand même lié à... Au milieu rural, il y a beaucoup de conteurs qui travaillent en milieu rural, qui habitent en milieu rural. Cette découverte, redécouverte du conte, elle vient de là, elle vient de la campagne.
Au départ, oui. C'est vrai qu'il y a ce mythe un petit peu de la veillée d'antan avec les gens qui, après leur journée de travail, venaient autour du feu de cheminée pour écouter des histoires. Mais c'est vrai aussi que nous on insiste beaucoup pour dire que voilà, les histoires de toute façon elles sont pour partout, hein. Elles sont effectivement, ma problématique c'est d'amener le spectacle vivant au milieu rural, mais les conteurs maintenant s'expriment aussi, voilà, il y a beaucoup de conteurs aussi qui sont installés en ville et qui racontent d'ailleurs des histoires plutôt basées sur le milieu urbain. Mais j'allais dire que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une bonne histoire, ça reste une bonne histoire. Et donc, quelqu'un qui va raconter des histoires urbaines, il peut venir au milieu rural les raconter. Et inversement, quelqu'un qui raconte des histoires liées au milieu rural, eh ben, il peut aller les raconter en ville. Hein. C'est un peu l'histoire et la manière dont elles sont portées qui compte. Mais c'est vrai que, en tout cas, on joue, nous, là-dessus, sur cette... C'est un peu ce mythe de la veillée d'antan où tout le monde se retrouvait. En tout cas, essayer de recréer ça dans une salle des fêtes, dans un estaminet, pourquoi pas dans une église. Voilà, et c'est vrai que les gens des villes aussi se déplacent en campagne pour venir écouter les conteurs parce qu'ils ont l'impression que c'est peut-être plus dans le jus, mais c'est plus tout à fait vrai. Hein, parce que, par exemple, dans les quartiers aussi, il y a beaucoup de conteurs qui racontent.
Je me revois là toujours dans le même style vestimentaire, vous savez, les grosses baskets, les pantalons hyper larges, les grosses vestes, toujours la capuche sur la tête, et puis la démarche qui va avec, vous voyez? Une main comme ça dans la poche, l'autre bras ballant. Avec le regard de tueur, cherchant à intimider toute personne qui passe sur mon chemin, crachant régulièrement par terre pour marquer mon territoire. Je me revois là. Et je me dis que si quelqu'un était venu me voir à cette époque-là pour me poser simplement cette question, Ladji, est-ce que ça te plairait d'habiter à la montagne? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Attends. J'ai pas compris là. Répète ce que t'as dit là. Tu me demandes à moi si ça me plairait d'habiter où?
Avant de parler du programme de Conteurs en campagne 2015, hein, qui se déroule du 26 septembre au 25 octobre, encore quelques questions un peu sur la démarche, la situation de votre fédération. Est-ce que les foyers ruraux 59-62 subissent, comme beaucoup de fédérations, comme beaucoup d'associations, les contraintes budgétaires des collectivités territoriales, notamment, donc pour vous, c'est le conseil régional, hein, plutôt?
Bah nous, on est sur... tout dépend des opérations, mais sur certaines opérations, on est aidé par le conseil régional, mais aussi par les conseils généraux. Hein. C'est le cas, par exemple, de Conteurs en campagne ou de notre autre opération phare Ruralivre autour de la littérature jeunesse, où là, on est aidé par les conseils généraux, hein, du Nord et du Pas-de-Calais. Alors, c'est vrai que de toute façon, je pense que dans les années à venir, on va pas y couper. Maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on aille un peu au charbon, qu'on répète que des actions en milieu culturel, en milieu rural, professionnelles, de qualité, qui impliquent les habitants, et puis qui se déroulent aussi à un niveau régional, il n'y en a pas des masses, que je sache, dans la région, et que cette action-là, voilà, elle est utile de la soutenir. Et après, voilà, je me dis que c'est une action qui est suffisamment implantée pour qu'elle continue malgré tout. Malgré tout ce qui pourrait effectivement nous pendre au nez, je pense que les racines sont profondes maintenant. Donc,
pour l'instant, on n'avait pas eu de baisse budgétaire.
Alors, pour cette année-là, 2015, officiellement, non. Mais officiellement, non. Par exemple, pour cette opération-là, non. C'est vrai que les craintes, c'est... beaucoup plus pour l'année 2016, d'autant plus que les élections régionales approchent.
Alors justement, les élections, une question en deux temps, ces élections, d'abord la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Donc pour votre fédération qui est régionale, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que les foyers ruraux existent aussi en Picardie. Alors, ils ne sont pas exactement constitués comme nous en Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que chez nous, c'est la fédération régionale qui est effectivement un peu phare, porteuse. En Picardie, l'échelon régional est peu présent. C'est surtout l'échelon départemental, notamment dans la Somme et dans l'Aisne. Concrètement, je peux vous dire qu'on y travaille, puisqu'on a prévu, là, en septembre, de se rencontrer entre les élus du Nord-Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne. On se connaît déjà un peu, mais pour voir quelles sont nos actions et puis comment on va faire pour travailler ensemble plus étroitement, pas se marcher sur les pieds aussi, et puis aller défendre les foyers ruraux à l'échelon régional dorénavant, qui sera plus grand. Donc oui, on y travaille, donc ça m'inquiète pas pour l'instant outre mesure.
Les sondages pour les prochaines élections, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous inquiète ? Tony Avard.
Qui serait pas inquiet. Enfin, si, il y en a qui sont pas inquiets, qui sont peut-être contents, mais nous, on est inquiets parce que je pense que le milieu rural en plus est pas épargné par les velléités, j'allais dire réactionnaires. Donc ça on le constate. Et puis nous, on a toujours, de toute façon, on a toujours cherché à promouvoir un milieu rural ouvert à l'autre et puis aux cultures d'où qu'elles viennent. Donc voilà, oui, inquiet, mais bon, on verra en allant, comme on dit.
Alors justement, Tony Avard, l'ouverture, c'est un peu la thématique phare, j'allais dire comme d'habitude du festival, mais peut-être encore plus particulièrement cette année. Donc, les Conteurs en Campagne, on rappelle, hein, ça se passe du 26 septembre au 25 octobre dans tout un tas de villages de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, l'ouverture au travers du conte multiculturel, donc avec un grand nombre de conteurs qui viennent d'un petit peu partout sur la planète, quoi.
Oui, cette année, on a cherché à peut-être mettre l'accent encore un petit peu plus sur cet aspect-là, sur le conte de partout. Dans notre édito, effectivement, on rappelle que le conte, les histoires, on ne sait pas d'où elles viennent. Elles viennent pour certaines, pour les contes traditionnels en tout cas, pour les mythes, les récits, les contes traditionnels, elles remontent parfois à très loin et on trouve parfois des versions des mêmes contes dans des continents différents, quoi, sans qu'on sache qui était le premier, comment ça s'est transmis, est-ce que ça s'est créé comme ça indépendamment l'un de l'autre, est-ce qu'il y a eu un moment des passages de frontières, c'est extrêmement troublant. Donc on rappelle que les contes, de toute façon, ils n'ont pas de frontières. Bien malin parfois qui peut dire, moi j'ai un conte qui est typiquement ch'timi, par exemple, je demande à voir, quoi. Parfois on retrouve des histoires qui sont à peu près les mêmes, de l'autre côté de la Méditerranée ou en Europe de l'Est. Donc les contes n'ont pas de frontières. Donc nous, on joue ce jeu-là aussi à fond en invitant des paroles d'ici et puis d'ailleurs.
Alors quelques exemples peut-être de conteurs qui racontent des histoires venues d'ailleurs.
Oui, il y en a beaucoup cette année. Il y a par exemple Kaina Barry, qui est une conteuse qui elle est deux pieds entre France et Algérie. Elle raconte par exemple dans son spectacle Fatema, bien au-delà de l'horizon, l'histoire de Fatema, une femme que l'histoire a confrontée à de grands défis, puisqu'on nous parle là de l'indépendance de l'Algérie, d'une fille qui a grandi en Algérie, mais qui a reçu une culture française et puis qui se retrouve ensuite en France. Voilà, il y a le passage d'une culture à l'autre. Il y a beaucoup de spectacles qui sont autour de ça. C'est le cas aussi, par exemple, des spectacles de Ladji Diallo, qui raconte... alors lui, il a carrément trois pieds, je ne sais pas comment il fait. Il en a un en Afrique, un en banlieue parisienne et puis un dans les Pyrénées. Voilà, il raconte un peu son itinéraire, puisque voilà, il est passé de jeune de banlieue à habitant des Pyrénées. Donc il raconte un peu son arrivée dans les Pyrénées, les habitants, comment il a été accueilli, comment il a vu découvert ce territoire-là. Donc voilà, ce sont des histoires comme ça. Puis il y a des choses plus graves, comme des Perles de liberté de Sophie Clairfay, une conteuse belge qui est passionnée par le Brésil et qui s'est intéressée à la révolte des esclaves au Brésil. Hein, donc c'est aussi donc des histoires qui naviguent entre des récits réels, historiques, avec un grand H, et puis qui partent aussi parfois vers l'imaginaire.
Odé, 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 rei do queto, caboclo na mata, odé, odé. Dom Manuel Silveira da Cunha portait la redingote coupée à l'anglaise. Quand Dom Manuel est arrivé au marché aux esclaves, il a eu l'œil immédiatement attiré par le dos droit et musclé de Chico. Il a demandé son prix. Oui, il vaut cher. On dit qu'il est roi dans son pays. Je le vends 350 000 reichs. Bien, je le prends. Et puis tu me mettras aussi ces deux-ci et ces deux-là. Puis Dom Manuel s'est approché d'une femme. Il lui a regardé le blanc de l'œil. Avec la paume de la main, il lui a caressé le sein. Il l'a soupesé. Des deux doigts, il a pressé son téton, comme pour jauger son lait. Bien, je la prends aussi. Belle comme elle est, j'en connais plus d'un qui seront ravis de lui faire des enfants, et moi, ça me fera de la main-d'œuvre gratuite.
Honoré.
On est toujours en compagnie de Tony Havard, coordinateur pour les foyers ruraux 59-62 du festival Conteurs en campagne 2015. Un mot aussi sur Maggie Faro qui, pioche dans la culture créole antillaise, c'est ça ?
Oui, c'est ça, les Guadeloupéennes, Maggie Faro. Et donc, c'est la première fois qu'elle vient dans le festival. On est là sur, finalement, un format de veillée-conte plus traditionnel, hein, puisqu'elle part vraiment sur des contes des îles, des Antilles. Mais ça va être quelque chose de beaucoup plus familial et j'allais dire enjoué, puisqu'elle n'hésite pas à s'accompagner, à chanter la biguine, à faire danser les enfants et les adultes, pourquoi pas, lors de ces spectacles. Voilà, parce que c'est important aussi d'ouvrir vers des imaginaires qui soient pleins d'allants, gays, qui nous transportent vraiment dans le monde du temps où les animaux parlaient, où les poules avaient des dents, où la mer n'était pas salée, et où la lune n'existait pas dans le ciel, par exemple.
Vous avez parlé de musique dans le conte. Il y a aussi dans le festival des gens qui mélangent le conte à d'autres disciplines. Et une, quand même un peu inattendue, c'est la cuisine.
Oui, tout à fait. Alors, pour la cuisine, la rencontre, on a fait une rencontre avec Lénaïque Eberlin, qui est un artiste qui, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, habite l'Alsace, même s'il est d'origine bretonne à mon avis. Et Lénaïque, il a avant d'être conteur avec sa compagnie, il a été dans les cuisines. Il a eu une formation de cuisinier et en fait, il se sert de cette expérience-là, notamment dans un spectacle qui s'appelle Les mains à la pâte. Qui est véritablement la rencontre entre les deux mondes, puisque sur scène c'est très physique, non seulement il raconte mais aussi il cuisine, mais vraiment hein, il manipule des boules de pain, il projette de la farine, il fait flamber une crêpe qui donne à manger aussi aux gens à la fin. Et c'est un spectacle plus profond qu'il n'y paraît, puisqu'il nous parle d'apprentissage. Il part d'un conte traditionnel qui parle d'un forgeron du diable, et lui il parle aussi de ses années d'apprentissage de cuisine, de la difficulté, de l'ambiance dictatoriale qui peut régner dans les grandes cuisines. Et voilà, il fait le parallèle entre les deux, donc c'est assez aussi profond. Ça peut parler par exemple à un public d'adolescents ou de jeunes adultes qui se cherchent encore.
Un mot aussi sur l'un de vos coups de cœur, hein, si j'ai bien compris, ça s'appelle Machin Truc, et c'est proposé par Alberto Garcia Sanchez.
Alberto Garcia Sanchez, c'est un, c'est plus qu'un conteur parce que il est aussi metteur en scène. C'est quelqu'un qui a eu un Molière pour le spectacle jeune public. Donc c'est à la fois un metteur en scène, un comédien, un conteur et machin truc. C'est un spectacle à total parce que c'est quelqu'un qui incarne sur scène à la manière d'un Dario Fo. Il est capable d'incarner une petite cuillère ou une tasse à café et de nous émouvoir en incarnant une tasse à café, ce qui est quand même fort. Et machin truc, c'est une fable entre Disney et Karl Marx, je dirais, qui nous raconte la naissance des trucs, des choses, des objets. Voilà, il nous parle d'un pays où ça n'existait pas, et un jour un homme par inadvertance va créer un objet. Et puis voilà, ça va être une grande épopée qui va démarrer, politique, poétique, et puis complètement fantaisiste aussi.
Et cette nuit-là, pendant que le machin troupeau dormait, il y a eu en secret, au théâtre, la première assemblée des choses. La porte du théâtre est là, c'est qui va? Trois cendriers et un panier. Allez, entrez, l'ambiance est tendue. On entre. Il y a plein de monde, il y avait un représentant de chaque maison. Au premier rang, il y avait aussi les I et les N qui sont tombés. Allez, on va s'organiser, les choses grandes derrière et le petit devant. Oui, oui, les placards au fond, il faut tout dire ici. Et les lits, ils ne sont pas venus. Ah oui, oui, je comprends. Sur la scène, il y avait le marteau et le balai. Le marteau prend la parole. Nous sommes des choses et on nous traite comme des objets. Il n'y a plus les bouts des choses.
Alors Alberto Garcia Sanchez donnera aussi une conférence intitulée « La scène, une arme contre l'oubli ». Ça parle de quoi ?
Il part de ses expériences aussi, puisque c'est quelqu'un qui est aussi metteur en scène, qui dirige une compagnie en Allemagne. Il est entre en Allemagne, Belgique et France pour son travail. Il va parler un peu de la manière dont le travail scénique ces dernières années a été un peu influencé par la télévision, par l'internet surtout, par l'information toute puissante. Comment le théâtre parfois en voulant être à chaque fois provocateur, ne l'est pas tellement parce qu'il est voué aussi aux règles de la rentabilité absolue. Donc voilà, c'est une expérience de dramaturge, de metteur en scène qui va nous présenter.
Alors, le festival Conteurs en campagne, c'est bien sûr ces spectacles pendant un mois, mais aussi deux temps forts au début et à la fin. Alors, l'ouverture, la nuit des conteurs, pas vraiment à la campagne cette année, puisque c'est à Étaples, c'est quand même une ville... 6000 habitants, je crois.
Oui, c'est autour de ça. Oui, ça doit être autour de ça. Ben, la nuit des conteurs, c'est vrai que c'est un peu une entorse qu'on fait à notre règlement. Mais bon, c'est un peu logique parce que la nuit des conteurs, c'est un petit peu plus. Ça demande un petit peu plus de moyens pour l'organiser. Donc, on cherche plutôt à l'organiser en ville. D'autant plus que le principe, c'est celui de l'itinérance, c'est-à-dire que les spectateurs répartis en groupes de 50. Il y a 6 groupes de 50, vont faire un circuit pédestre à l'intérieur de la cité et vont s'arrêter en cours de route dans des lieux du patrimoine d'Étaples pour écouter la parole des conteurs. Et puis les 6 groupes ensuite vont converger vers un lieu unique où ils vont manger un petit quelque chose et puis écouter encore des histoires. Et donc on joue là-dessus, vraiment sur la nuit des conteurs, c'est la rencontre, j'allais dire, de la marche, de la nuit et des histoires. Et puis du mystère, parce qu'on insiste beaucoup sur la nuit des conteurs. Vous pourrez voir dans le programme, il n'y a pas le nom des lieux dans lequel les conteurs vont être, et il n'y a pas le nom des conteurs non plus. Donc on est vraiment sur une soirée surprise. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y aura pas que du conte dans les arrêts. Il y aura peut-être de la musique, je ne sais pas. Il y aura peut-être de la lecture, je ne sais pas en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps un peu festif. Et généralement, ça marche bien parce que c'est la découverte aussi d'une ville. Souvent, les gens qui viennent à la nuit des conteurs, c'est un public assez régional. Ils connaissent pas forcément la ville où ça se passe. Donc, ils la découvrent à la tombée de la nuit. Ils découvrent des bâtiments qui sont pas toujours ouvert au public, et puis ils découvrent d'autres conteurs. Je peux dire aussi que les 6 artistes qui viendront à la Nuit des Conteurs ne sont pas programmés par la suite dans le festival, donc ce sera complètement inédit.
Alors ça se passera cette Nuit des Conteurs à Étaples-sur-Mer le samedi 26 septembre à partir de 19h à l'autre bout du programme du festival. Donc il y a la clôture qui se passe à Herbigny. C'est où Herbigny d'abord?
Alors Herbigny, bah, c'est proche de Lequesnoy, hein. Donc on est là carrément, bah, on trace une grande ligne, hein, depuis Étaples pour aller à la clôture. Voilà, on est du côté du Quesnoy. Ouais.
Avec une carte blanche à 3 conteurs venus, en tout cas de culture des quatre coins du monde, et qui apparemment ne se connaissent pas, c'est ça?
Bah, l'idée, c'était de donner une carte blanche à 3 artistes qui se verront évidemment avant, hein, le spectacle, hein, ils ne vont pas rentrer en scène 5 minutes avant puis se présenter, pour préparer un après-midi inédit. Donc on a proposé ça à 3 artistes. Alors il y en a un qui est venu l'an dernier dans le festival, qui s'appelle Lamine Diané, qui a été un peu un conteur qu'on a découvert un peu, qui s'est révélé parce qu'il n'était jamais venu, et puis dont on a vraiment apprécié la simplicité du travail et son accessibilité. Et puis Victor Cova Correa, qui vient pour lui pour la première fois, qui est d'origine vénézuélienne, qui a vraiment un répertoire autour des contes d'Amérique du Sud, qui s'accompagne aussi en musique. Et puis Nathalie Leboucher, qui est une conteuse assez particulière, puisque elle pratique, quand elle conte, en même temps qu'elle conte, le Kathakali, qui est une danse traditionnelle indienne. Donc c'est très imagé, à la fois dans les images mentales qu'elle crée, mais aussi visuellement. Donc on va leur proposer de se faire se rencontrer leurs trois imaginaires.
Solim Diga, Solim Diga. Solim Diga n'a jamais répondu, mais sur le chemin, chaque grain de poussière, chaque feuille de chaque branche de chaque arbre de la forêt a murmuré à l'oreille de Indiga. Indiga, Indiga, tu as perdu Solim Diga. Indiga, Indiga, tu as perdu Solim Diga. Je sais. Hé, écureuil, est-ce que tu n'aurais pas vu mon frère ?
Alors, à côté des spectacles dans le cadre du festival, il y a aussi un moment de formation ouvert aux débutants, aux conteurs débutants, aux gens qui ont envie de s'initier au conte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est quelque chose que l'on propose très régulièrement dans l'année. Là, c'est une formation initiation qui aura lieu juste après le festival, donc qui aura lieu à Berck-sur-Mer. On essaie aussi toujours de changer les endroits où se passent nos formations pour essayer d'ouvrir de nouvelles oreilles, finalement, au conte. Et puis là, c'est Pascal Guérand, qui est un conteur belgo-japonais, belge par son père, japonais par sa mère, qui va animer cette session de formation du 27 au 29 octobre à Berck. L'idée, c'est aussi de former des conteurs amateurs, parce que c'est aussi le meilleur moyen de comprendre comment ça fonctionne et puis d'en parler autour de soi, et ça crée du public aussi. Hein, ça crée des nouveaux relais sur les territoires.
Dernier mot, Tony Avard, c'est sur cette baisse des prix affichée dans la plaquette. Bonne nouvelle, à un moment où justement, tout à l'heure on parlait des contraintes budgétaires, en général les prix des spectacles ont plutôt tendance à grimper.
Bah, c'est symbolique, disons, parce que c'est pas une baisse des prix non plus monstrueuse, hein, faut pas faire croire. On passe de 6 à 5 euros et de 3,5 à 3 au niveau des tarifs réduits. Donc c'est pas non plus énorme, mais effectivement, voilà, on tenait à le dire, c'est un effort qu'on fait. On pourra peut-être pas le faire les autres années encore, mais ça nous a semblé important parce que, comme vous venez de le dire. C'est exactement ça. À un moment où il y a beaucoup de choses qui augmentent et où c'est difficile, on baisse les prix. Alors après c'est un détail, mais ça nous semblait important symboliquement.
Tony Avard, merci de venir chaque année nous donner envie de participer à ce super festival. Et puis à bientôt sur les routes du Festival Conteurs en Campagne 2015.
Merci, à bientôt.
Tony Avar, coordinateur du festival Conteurs en Campagne, organisé par les foyers ruraux 59-62. Cette année, ça se passe du 26 septembre au 25 octobre. Toutes les infos sont en ligne, foyersruraux5962.fr, sur les réseaux sociaux aussi. La très jolie plaquette est à potasser et à ramasser dans les lieux culturels près de chez vous. On a entendu au cours de cette émission des petits extraits sonores avec quelques-uns des conteurs invités cette année dans l'ordre Ladji Diallo, Sophie Clairfait, Alberto Garcia Sanchez et puis Kaina Barry. Vous retrouverez aussi sur vos radios locales des interviews, des extraits de contes tout au long du festival et vous les retrouverez aussi en ligne sur le www.franf.fr, franf.fr.